Mondialisation, inflation, délocalisation, spéculation, individualisme, profit. Marre d'une économie qui mène à la crise. Économie sociale et solidaire, démocratie, coopération, engagement, partage, proximité, pérennité.
Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est en novembre. Faites votre programme sur www.lemois-ess.org. Social et solidaire, l'économie qui sait où elle va.
Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale. Pendant tout le mois de novembre, Fréquence Oscillée vous propose des émissions sur le thème de l'économie sociale et solidaire. Novembre étant le mois de l'économie sociale et solidaire. Une troisième édition qui a pour thème cette année entreprendre autrement pour le développement économique local et l'emploi. Zoom sur des métiers qui ont du sens. Dans ce cadre a lieu au Mans le 5e colloque des employeurs de l'économie sociale le vendredi 5 novembre au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. L'occasion pour Fréquence Oscillée d'y rencontrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire, également en connaître les enjeux de cette autre forme d'économie citoyenne. Vous retrouverez dans les émissions à venir, interviews et reportages enregistrés donc au Mans lors de ce 5e colloque. Pour cette première émission, présentation et explication de cette économie qui sait où elle va avec Jean-Louis Lemierre, membre de l'USGERES, l'Union des syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale. Il évoque également ce 5e colloque organisé au Mans. Il permettra, selon lui, entre autres, de fédérer les employeurs de l'économie solidaire de la Sarthe. Et puis un exemple local de société reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, avec Laurent Giroux, co-gérant de la société coopérative d'intérêt collectif Pignon sur Rue, qui a ouvert ses portes il y a tout juste un an, c'était en novembre dernier, à Fresnay-sur-Sarthe. Et elle fait partie des 15 sociétés coopératives d'intérêt collectif françaises dédiées au service à la personne et constitue la première du département. Je vous laisse donc avec Emmanuel et ses invités, Jean-Louis Lemierre et Laurent Giroux.
Le 5e colloque des employeurs de l'économie sociale dans les Pays de la Loire se déroulera le 5 novembre au Mans, au programme conférences, débats et ateliers autour de la place du secteur de l'économie sociale et solidaire dans un monde qui change. Jean-Louis Lemierre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'aide à domicile dans la Sarthe et membre de l'UGERES, oui, en tant que représentant dans les Pays de la Loire des employeurs de cette économie sociale et solidaire. Alors vous allez ouvrir ce colloque le vendredi 5 novembre au Palais des Congrès du Mans. Vous connaissez donc bien le sujet. De quoi parle-t-on quand on dit économie sociale et solidaire ?
Eh bien, on parle des associations, on parle des coopératives, on parle des mutuelles, donc de tout ce système qui finalement n'a pas de capital, qui a des sociétaires ou des adhérents et qui est quand même très différent effectivement de ce qu'on pourrait appeler l'économie capitalistique.
C'est-à-dire que dans une entreprise d'économie sociale, on ne fait pas de bénéfices.
C'est très très différent suivant les structures, mais on ne fait pas de bénéfices qui sont répartis en fonction de la propriété de l'entreprise ou de la part de propriété de l'entreprise, puisqu'il n'y a pas de propriétaire de l'entreprise. Une association, ce sont des membres. On peut faire des excédents. D'ailleurs, il vaut mieux en faire quand même parce que dans tous les domaines, il faut forcément équilibrer les comptes. Hein, mais ces excédents de recettes, ils sont très rarement redistribués, ils sont plutôt réinvestis, ils renforcent les fonds propres. Regardez par exemple les mutuelles santé, ce sont les pouvoirs publics qui fixent les exigences de taux de fonds propres. Bon, dans une association, il faut avoir un minimum de fonds propres si on ne veut pas faire appel aux banquiers pour faire la trésorerie de fin de mois. Bon, donc voilà la grande différence, c'est que on ne redistribue pas effectivement en fonction d'une part de propriété, puisqu'il n'y a pas de propriétaire, il n'y a que des associés, des adhérents en général.
Alors, est-ce que vous pouvez citer justement des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour que ça parle aux gens et dire, elles recouvrent quel secteur? secteurs
Alors, les secteurs sont aussi variés que les entreprises capitalistiques, d'une certaine manière. Parce qu'une coopérative de production, ça peut produire n'importe quoi. Ensuite, vous avez les banques. Alors ça, c'est évidemment un petit peu particulier, mais les banques populaires, les caisses d'épargne, le crédit mutuel, ce sont des banques coopératives. Bon, mais ça, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que le secteur bancaire aujourd'hui, il est assez gigantesque et il a peut-être un petit peu perdu de sa philosophie d'il y a 30 ou 40 ans. Par contre, dans le domaine des mutuelles, alors là, on est typiquement dans l'activité santé, dans l'activité prévoyance. Ces mutuelles et les unions de mutuelles, par exemple, peuvent gérer des cliniques, peuvent gérer des centres optiques mutualistes, des centres dentaires. Quant aux associations, alors là, le domaine d'activité est absolument très très large, puisque effectivement, vous l'avez dit, je suis président d'une association de service à la personne, elle à domicile sur le Mans, mais nous avons dans les co-organisateurs du colloque l'ADAPI, la PAGE, la Sauvegarde, beaucoup beaucoup d'associations qui agissent dans des domaines plutôt sociaux, mais vous avez l'association d'hygiène sociale, dans la Sarthe vous avez des tas de structures qui ne sont pas des entreprises, qui ne sont pas des structures capitalistiques, qui sont des structures associatives ou coopératives.
Alors, est-ce que l'économie sociale et solidaire est bien représentée dans les pays de la Loire ?
Oui, tout à fait. Elle l'est de la même manière que l'est dans la plupart des régions françaises, c'est-à-dire qu'on représente 8 à 10% des emplois. Alors, ça n'est peut-être que 8 à 10%, mais c'est quand même 8 à 10% des emplois en France, quand on sait l'importance du secteur public, etc. Donc, ça veut dire qu'on est effectivement très important. Mmh. Par ailleurs, aux élections au Conseil Prud'homo, qui sont, si vous voulez, quand même un test de représentativité, nous avons fait 20% des voix. Donc, ce qui montre que, effectivement, c'est un secteur d'activité dynamique et extrêmement important en termes de volume d'activité dans l'activité économique de notre pays.
Alors, pourquoi un colloque? Un colloque destiné, je le rappelle, plutôt aux dirigeants, aux présidents, aux administrateurs et non pas aux salariés.
Alors, être employeur de l'économie sociale, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Je dirais très franchement, voilà, moi je suis président d'une association, eh bien c'est une responsabilité importante et qu'il faut assumer. On est des entreprises associatives, donc je préférerais dans la période actuelle ne faire que du social, me préoccuper de choses à caractère humaniste et social. Aujourd'hui, on est dans une période un petit peu difficile d'ailleurs sur le plan économique, et donc il faut aussi qu'on sache se préoccuper des emplois qu'il y a dans nos structures associatives. Donc là, effectivement, tous les deux ans, les employeurs ont décidé de faire un colloque des employeurs. Le sujet majeur, si vous voulez, c'est la gouvernance, mais aussi les finances, les financements de nos structures. Nous ne sommes en général pas directement subventionnés, hein, mais nous dépendons d'un certain nombre de décisions des pouvoirs publics, par exemple dans les services à la personne, bon, excusez-moi, mais c'est évidemment le domaine que je connais le mieux, nous, les personnes chez lesquelles on intervient, c'est essentiellement des personnes âgées, et donc elles ont l'allocation personnalisée d'autonomie pour pouvoir avoir des intervenants chez elles. Bon. Et donc, cette APA est en difficulté, eh bien, ce sont les emplois de service à la personne qui auront des difficultés. Donc, voilà, ce sont des préoccupations qui sont communes à tous les... dans une période en plus de crise, mais qui sont communes aux structures associatives, mutualistes et coopératives. Et on a effectivement décidé... ce colloque est organisé pour la 5e fois, il est tous les 2 ans, et c'est effectivement plutôt les responsables de ces entreprises associatives et mutualistes et coopératives qui se réunissent pour parler de leurs problèmes.
À quelles difficultés particulières êtes-vous confronté au quotidien? Donc le mot qui revient, ce sont les profondes mutations. Alors là, c'est un souci de s'adapter en fait à ces profondes mutations de l'économie en général, en fait l'économie mondialisée.
Oui, enfin, mondialisé, si vous voulez, justement, là, je mettrai un bémol. Vous me lancez une perche qui est intéressante, parce que dans le domaine des associations, au contraire, ce que nous disons, c'est que nous, nos emplois ne peuvent pas être délocalisés. Les emplois des mutuelles santé, ils sont forcément sur le terrain. Les emplois des associations de services à la personne sont forcément sur le terrain. Les coopératives, elles, peuvent être effectivement dans la concurrence internationale. Même une PME, on le sait bien aujourd'hui, une PME coopérative est dans la concurrence internationale. Mais aujourd'hui, non, nos difficultés, elles sont comme toutes les autres structures qui ont des emplois, financement de nos emplois, financement de nos structures, participation effectivement des pouvoirs publics et des finances publiques et sociales à nos activités. Vous imaginez bien que nous n'échappons pas à ça. Je dirais qu'il y a un autre sujet, moi, qui me paraît, puisqu'on a parlé pas mal de cet aspect-là, qui me paraît important, c'est la gouvernance. Alors la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la répartition intelligente et utile et constructive entre les dirigeants permanents et les présidents et les administrateurs bénévoles. Et là, il y a un vrai sujet parce que il faut absolument que toutes ces structures aient de vrais dirigeants bénévoles investis un minimum. Et je dirais que la génération dont je suis, c'est-à-dire ceux qui arrivent à la retraite ou qui sont arrivés il y a 2-3 ans, ben, il faut qu'ils sachent après leur activité professionnelle s'investir un petit peu au service des associations, des mutuelles et des coopératives. On a besoin d'eux. C'est une sorte d'appel que, si vous voulez, je lance là, mais je crois que c'est réellement un sujet. Je pense que aujourd'hui, les gens en activité, en responsabilité, ils sont un petit peu débordés de boulot, il faut bien le reconnaître. Il y en a un certain nombre qui peuvent s'investir quand même dans le bénévolat, mais c'est surtout ceux qui sont encore en pleine forme physique et intellectuelle, qui atteignent l'âge de la retraite et qui peuvent encore très utilement s'investir dans les conseils d'administration de toutes ces structures.
Bon, quels sont les atouts de l'économie sociale et solidaire pour l'avenir?
Bah, écoutez, les atouts, c'est quand même le fait qu'on n'est pas obligé de faire des excédents de recettes ou des bénéfices comme le font les entreprises capitalistiques aujourd'hui. Quand on voit les exigences, effectivement, de tous ceux qui sont propriétaires des entreprises.
Des bénéfices, des résultats de chiffres, c'est ça?
Ah oui, non, les résultats de chiffres, c'est pas notre but. Oui. Encore une fois, tout à l'heure, je disais, il faut faire des excédents de recettes parce qu'on peut pas faire autrement. Je veux dire, il n'y a pas de continuité de la vie d'une structure d'emploi s'il n'y a pas des excédents de recettes. Mais nous, il faut dégager ça, mais on n'est pas sur le chiffre. On n'a pas des financiers, des banquiers ou des gestionnaires de fonds, comme on dit, dans le monde capitalistique, pour nous dire, monsieur, vous devez avoir tel et tel taux de rentabilité. C'est pas du tout le sujet. Donc ça, c'est quand même un point fort, et c'est un élément qui peut nous permettre quand même de ne pas être dans cette pressurisation de résultats.
Alors parlons précisément de ce colloque. Beaucoup d'intervenants. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Je vois notamment Hugues Vidor, président de l'UGRS.
Je vais vous faire un aveu, je ne le connais pas personnellement.
D'accord.
Mais ça tombe bien. C'est moi, je suis le petit Sartois d'une certaine manière, et qui est quand même piloté un petit peu ça au niveau Sartois. Mais vous me donnez l'occasion plutôt de dire que dans la Sarthe, les employeurs de l'économie sociale, qui sont des gens très investis socialement finalement dans leur action, sont peu organisés. Et si l'UGRS notamment, notre syndicat d'employeurs là, des associations notamment de services à la personne, a proposé que ça se passe au Mans, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que je suis de ceux quand même qui pensent qu'il faut que l'économie sociale, ses employeurs, ses structures se coopèrent un peu plus ensemble, parce que je dirais de l'autre côté d'une certaine manière le MEDEF etc. sait parfaitement s'organiser sur le terrain. Nous, on est un petit peu isolé, on sait se rassembler pour faire les listes de candidats au conseil prud'homaux, mais en dehors de ça, voilà, on n'est pas suffisamment coordonné, on coopère pas entre nous, on n'est pas assez organisé. Aujourd'hui, il faut s'organiser en lobbying, c'est clair, pour faire du lobbying, et donc on n'est pas suffisamment organisé pour ça. Ce colloque, si moi j'ai été très partisan qu'on l'organise en Sarthe, c'est pour donner un coup de pouce à ce qui pourrait devenir une organisation des employeurs de l'économie sociale en Sarthe.
Et ça a été difficile pour vous, justement, sartois, d'organiser ce colloque régional en Sarthe, dans votre département ?
Non, au point de vue organisation, ça va. On sait qu'on aura d'ores et déjà plus de 100 participants, donc ça va. Le problème, c'est après de fédérer ces présidents ou ces directeurs d'associations. Chacun est un petit peu dans son coin. On peut quelquefois être concurrent, faut pas se cacher, hein, dans le domaine des services à la personne. Il y a aide à domicile, il y a la DMR, il y a famille rurale, il y en a d'autres. Il peut y avoir des petites formes de concurrence et on n'a pas toujours su s'organiser, se concerter. Et donc là, il y a une opportunité pour que on se connaisse un peu mieux, qu'on fasse parler de nous et que peut-être on réussisse à se fédérer un petit peu dans la Sarthe. Dans le Maine-et-Loire, voyez-vous, ils ont réussi même à créer une structure avec un emploi permanent. Donc c'est un moyen très fort quand même pour agir ensemble. Et donc, je ne sais pas si on pourra très vite déboucher sur la même forme d'organisation Sarthe, mais au moins que les employeurs de l'économie sociale, qu'ils soient dirigeants professionnels ou qu'ils soient présidents bénévoles et des membres de leur bureau ou de leur entourage, que je les appelle à se fédérer un petit peu, à se concerter, à se connaître pour qu'on soit une véritable force pour être présenté près des pouvoirs publics.
Merci Jean-Louis Lemierre. Ce cinquième colloque, je le rappelle, a lieu donc le 5 novembre, le vendredi 5 novembre au Palais des Congrès de la Culture du Mans. Donc d'ouverture du colloque à 9h30. À 9h, accueil des participants. Le matin, donc il y aura des conférences animées notamment par Hugues Vidor. Et puis l'après-midi, des ateliers. Quel enjeu de la gouvernance? Quelle formation et quelles évolutions des parcours professionnels et quelle prévention des risques psychosociaux. Et sachez que Fréquencier, radio locale du pays de la Haute-Sarthe, y sera. Et donc nous couvrirons des tables rondes, des débats avec les participants. Et puis sachez que notre président, Éric Lucas, animera cette journée.
Je vous remercie de nous avoir permis de présenter le colloque. Ça me permet de dire que jusqu'au dernier moment, un employeur de l'économie sociale qui voudrait y participer, on l'accueillera évidemment avec joie.
Voilà, le message est lancé en tout cas. Merci à vous Jean-Louis Lemierre.
Mon chéri.
Oui.
Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire pour Léo quand je vais retravailler.
T'inquiète pas, on a l'embarras du choix. Entre les crèches associatives, les aides à domicile, les ludothèques, les clubs de sport, etc. Ton fils de 3 ans sera bien entouré.
Mais t'es super bien renseigné, toi.
Ben oui, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est le moment de s'informer. Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est en novembre. N'attendez pas pour vous renseigner. Plus d'infos au www.lemois-ess.org. Social et solidaire, l'économie qui sait où elle va.
Laurent Giroux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le gérant avec Christophe Godet de Pignon sur Rue, une structure de service à la personne installée à Fresnay-sur-Sarthe. Alors, ça fait un an aujourd'hui, c'est bien cela ?
Tout à fait, on a ouvert donc le 2 novembre 2009.
Alors, pouvez-vous nous présenter Pignon sur Rue ?
Alors, Pignon sur Rue est une coopérative, c'est-à-dire plus précisément une société coopérative d'intérêt collectif. Donc ça a réuni à la fois les avantages de l'association et l'avantage des entreprises. Donc c'est vrai que nous fonctionnons avec des collèges. Donc on a le collège des fondateurs, le collège des salariés, des clients, des bénévoles, des collectivités, celui des investisseurs.
Voilà, ce n'est pas une entreprise capitalistique, c'est fondé sur la coopérative, tout le monde est partie prenante dans cette SCIC.
Tout à fait, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que les salariés ou les clients peuvent, s'ils le souhaitent, acheter ou non une part sociale.
Alors, vous êtes sur le secteur des services à la personne, en quoi avez-vous trouvé votre place à Fresnay-sur-Sarthe ?
Alors l'avantage c'est que tous nos concurrents, c'est-à-dire les entreprises commerciales, se situent au Mans ou le Mans Métropole. Donc sur le secteur des pays Haute-Sarthe et pays d'Alençon, il n'y a que quelques associations. Et nous on est les seuls en tant qu'autres que les associations.
Alors pourquoi ce statut juridique, donc société coopérative d'intérêt collectif, est-il adapté à votre secteur d'activité ?
Alors, je pourrais dire plutôt pourquoi on n'a pas choisi le statut juridique d'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. Alors déjà parce que ça répondait pas à nos aspirations personnelles. Donc on ne voulait pas à la fois le statut juridique de l'association, parce que c'est vrai que nous avons des bénévoles, administrateurs qui peuvent diriger sans avoir forcément des compétences. Concernant les SA ou SARL, c'est surtout pour ceux qui veulent faire un peu de l'argent sur le dos des personnes aidées. Et ça, c'est pas du tout notre façon de faire, de penser.
Alors, quelles sont vos activités ? Parce que les services à la personne, c'est assez large. Vous êtes sur quel type d'activité ?
Alors, on fait le ménage, le repassage, on a l'aide à la toilette, aide au lever, aide au coucher, préparation de repas, livraison de repas et la téléassistance. C'est pour cela que on a l'agrément qualité qui nous autorise à intervenir pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les enfants de moins de 3 ans.
Alors, l'agrément qualité qui est donné par...
Qui est donné par la préfecture avec un avis du conseil général.
Voilà. Alors, pour quel public ? On l'a deviné, hein, aide à domicile, c'est plutôt les personnes âgées.
Oui.
Mais ça peut être des familles aussi.
Oui, tout à fait. Donc, la plupart de nos clients sont des personnes âgées et des personnes handicapées. On peut intervenir pour des enfants, mais actuellement, il n'y a pas beaucoup de demandes nous concernant.
Alors, vous l'avez dit un peu, vous visez un territoire rural et urbain, pays des Hautes-Sarthe, donc qui est plutôt rural, mais aussi pays d'Alençon, là c'est la ville.
Alors, c'est pas la ville d'Alençon, c'est-à-dire c'est vraiment du côté de ma mère, etc. Donc c'est toute la partie Sarthe, parce que l'agrément qualité n'est que départemental.
Bien sûr,
donc,
bien sûr.
Donc on peut intervenir à Arsonnet, mais on ne peut pas intervenir à Alençon.
D'accord, donc c'est le Saunois aussi, quoi. Hein.
Exactement.
Voilà. Le secteur des services à la personne est en plein développement. Votre société a donc de beaux jours devant elle.
Il est vrai qu'on a commencé il y a un an exactement et on a atteint nos objectifs de fin 2012. Donc on a largement dépassé nos prévisions.
Alors, n'êtes-vous pas en concurrence avec d'autres structures qui sont sur ce créneau depuis pas mal d'années déjà ? Je pense aux associations aide à domicile en milieu rural ou bien famille rurale.
Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres services, mais après tout, quand dans une ville vous avez plusieurs boulangers, vous ne dites rien.
Plusieurs coiffeurs.
Exactement. Et puis, sincèrement, la concurrence ne peut pas faire de mal. Ça nous oblige à travailler sur la qualité et sur les prix. Donc c'est vrai que ça peut pas être...
Alors les prix justement, c'est vous qui fixez les prix ou est-ce qu'ils sont quand même réglementés ?
Alors nous sommes agréés, nous ne sommes pas autorisés. C'est-à-dire que nous fixons les prix que nous souhaitons. Par contre, nous n'avons pas le droit d'augmenter les tarifs comme nous le voulons. Il y a pour cela un décret qui sort tous les ans.
Alors, quelles sont les demandes les plus fréquentes pour ce secteur des services à la personne ? Parce que vous faites aussi de la téléassistance, vous faites du portage de repas, bien sûr vous faites de l'aide au ménage, de l'aide à la toilette, mais quelles sont les demandes les plus importantes, les plus fréquentes ?
Alors, c'est surtout pour l'aide au lever, au coucher et la toilette. Sachant aussi qu'il y a quelques interventions pour les personnes âgées concernant le repas. Sachant que la livraison de repas ne concerne que le canton de Fresnay. Par contre, la téléassistance, on peut intervenir partout dans le département, même en dehors du département, parce que pour ça, l'agrément est national. Donc on peut, par exemple, on a installé une téléassistance à Évron.
Alors, on va expliquer peut-être téléassistance parce que c'est vraiment nouveau, ça. Est-ce que je peux résumer en disant que c'est un système qui met en contact des personnes qui sont chez elles seules et qui peuvent demander de l'aide, en fait, par téléphone à quelqu'un qui est en veille, qui donne de l'assistance, enfin, prévient des secours
En fait, le plus connu, c'est lorsque la personne a un petit médaillon ou une montre. Donc, par exemple, si la personne tombe, elle appuie sur le petit médaillon, elle est mise tout de suite en contact avec une plateforme téléphonique 24 heures sur 24 et qui appelle s'il le faut ou non les secours ou la famille.
Donc il y a un contact téléphonique,
oui.
Il y a un échange et la personne au bout du fil qui est donc en veille.
Oui. Appelle directement la personne qui est référencée par la personne âgée. Ça peut être un voisin, ça peut être un fils, une fille. La personne vient au domicile de la personne âgée, voit si elle est tombée ou non. S'il y a besoin d'appeler le secours, dans ce cas, elle n'a qu'à le dire à la personne qui est toujours en contact avec l'appareil. Dans ce cas-là, c'est la plateforme elle-même qui appelle les secours.
C'est un système en développement, ça?
Disons que c'est un système qui est...
Ça va de pair avec la dépendance, le maintien à domicile,
oui,
en fait.
C'est surtout pour rassurer aussi les enfants. C'est surtout pour des personnes âgées qui perdent souvent l'équilibre. Pour rassurer, sachant que notre système a aussi la possibilité d'avoir une écoute psychologique. Donc, durant les vacances, par exemple au moment de Noël, quand les personnes sont seules, ou quand il fait nuit, quand les personnes ont peur, dans ce cas-là, la personne peut appuyer sur le médaillon et la personne qui peut prendre contact avec elle par un système d'interphone peut la rassurer.
Alors, cette téléassistance avec donc les services de base d'aide à domicile sont un moyen de vous diversifier et peut-être de vous étendre, de vous agrandir, mais c'est pas le but en fait, je sais pas.
Alors on a rien inventé. Il faut le savoir, tous les services qui existent ont ces systèmes de téléassistance. Bon, la seule différence, c'est que nous, on est peut-être un peu moins cher que les autres. On a aussi des systèmes pour les personnes à mobilité réduite qui ont du mal à utiliser la main. Donc, on a un système avec de la mousse. Sachant que, bon, c'est vrai que ça se développe, mais la téléassistance, bon, c'est quand même un système qui est assez courant maintenant.
Alors, on n'a pas parlé de vos salariés, hein, parce que vous êtes une société créatrice d'emplois. Vous en avez une vingtaine, je crois, déjà.
Oui.
Quels sont ces métiers, justement?
Alors, vous avez aide à domicile, vous avez assistante de vie et familiale, et vous avez auxiliaire de vie sociale. Donc, aide à domicile, c'est surtout pour le ménage, le repassage. Et plus on monte, et plus c'est spécialisé. Auxiliaire de vie sociale, c'est vraiment pour des personnes très dépendantes ou lourdement handicapées.
Donc il y a un côté aide physique, mais aussi aide morale.
Tout à fait. En fait, on va dire que auxiliaire de vie sociale, c'est la Rolls Royce de l'aide à domicile.
D'accord. Alors, vos salariés viennent du secteur, de la région là?
Alors, ils ont toujours eu... on vérifie toujours l'expérience. On contacte toujours les anciens employeurs pour vérifier. Il y a aussi, on vérifie la réputation de la personne. Et puis, on vérifie si elles ont un véhicule, si elles ont bien le permis de conduire. C'est vrai qu'il y a un contrôle. Il y a des expériences en maison de retraite. Elles ont déjà travaillé dans un service à domicile. Donc, c'est vrai qu'on vérifie à chaque fois. Et surtout les motivations aussi.
Et alors, elles sont employées sous quel type de contrat?
CDI.
CDI, d'accord.
CDI. Ouais. Et donc, ensuite... On donne le nombre d'heures qu'elle souhaite.
Oui, c'est pas forcément à temps complet.
Non, il y a des personnes qui demandent que 10 heures ou 20 heures par semaine.
Et en fait, le rayon d'action, c'est toute la Haute-Sarthe, c'est tout le territoire.
Alors, on peut intervenir. Bon, évidemment, on fait pour qu'elle se déplace le moins possible, mais on peut intervenir. On intervient à Beaumont-sur-Sarthe, on intervient à Arsenay, à Saint-Paterne, à Fresnay. Donc, c'est pour cela qu'on demande obligatoirement un véhicule.
Alors, comment fait-on pour vous contacter et éventuellement faire appel à vos services?
Alors, il suffit soit de venir à notre local, donc au 57 Grande Rue à Fresnay-sur-Sarthe, ou en nous téléphonant au 02 43 311 310, donc du lundi au vendredi.
Voilà, 02 43 311 310, et puis un email, contact au singulier, @pignon-sur-rue.com. COP, oui, COP, parce que c'est une coopérative, on peut le dire.
Tout à fait.
Merci Laurent Giroux. On va saluer aussi votre l'autre gérant, parce que vous êtes co-gérant avec Christophe Godet.
Tout à fait.
Hein, c'est aussi une forme, c'est la forme de la coopérative où il y a plusieurs têtes, administrateurs au sein de cette société. Merci Laurent Giroux. Je rappelle donc que vous êtes le gérant de la société Pignon sur Rue, basée à Fresnes-sur-Sarthe, et vous avez la particularité d'être la seule SCIC sartoise intervenant dans le domaine des services à la personne.
Merci à vous.
Merci.
Voilà pour cette première émission consacrée à l'économie sociale et solidaire. Fréquence CIE sera donc présent au 5e colloque des employeurs de l'économie sociale qui aura lieu le vendredi 5 novembre au Mans. Vous retrouverez donc prochainement interviews et reportages enregistrés sur place. Et si vous voulez en savoir plus sur ce mois de l'économie sociale et solidaire, plus d'infos sur le www.lemois-ess.org.